Eh bien non, Vicky Bérardi a tort. Gilbert Dalto, c'est pas à 19h10, c'est tout de suite. Voilà, c'est dans Ondes Noires, deuxième partie. On était en train de parler de jazz, on continue. Alors Gilbert, je t'avais envoyé le passage que je vais lire dans deux minutes d'un roman que j'en ai adoré qui s'appelle Bienvenue à Auckland d'Eric Miles Williamson. Et tu nous as proposé que cette lecture se fasse en compagnie d'un morceau de, je crois, un musicien que tu aimes beaucoup. Et tu vas nous parler deux minutes de ce disque et du morceau, alors ?
C'est Hank Mobley, un de mes musiciens préférés, un de mes disques de jazz préférés. Hank Mobley est un saxophoniste qui a longtemps joué avec Miles Davis, dont on vient de parler précédemment à propos d'Ascenseur pour l'échafaud. Mais c'est une autre période, Miles Davis. C'est lui qui a remplacé, qu'il a remplacé Sonny Rollins, justement. Et il est venu avant l'arrivée de John Coltrane. Alors c'est un des saxophonistes charnières de l'épopée de Miles Davis, et il a fait beaucoup de disques sur son nom, c'est un grand saxophoniste, et vraiment le son typique de l'époque Blue Note, de l'époque ce gros son de ténor, très influencé par le blues, très noir, donc il correspond très bien au passage que tu vas lire, et c'est un disque donc publié sur le label Blue Note, qui s'appelle Workout, c'est un des meilleurs disques de Hank Mobley. Et Hank Mobley est là accompagné par la crème des musiciens de l'époque, puisqu'il y a le grand Grant Green à la guitare, Philly Joe Jones à la batterie, qui était le batteur à l'époque de Miles Davis, Wynton Kelly au piano, qui était aussi le pianiste de Miles Davis, et Paul Chambers à la basse, qui était...
Paul Chambers, mais combien a-t-il enregistré de disques? C'est incroyable.
Incroyable. Et Wynton Kelly aussi, toute cette équipe, c'était... En fait, c'est le quintet de Miles, augmenté d'un guitariste, et sans Miles Davis. Mais avec Hank Crawford, ce qui n'est pas rien, vous allez vous en rendre compte tout de suite.
Voilà, alors on va commencer. Merci beaucoup Gilbert, et on te retrouve dans une demi-heure, même pas une demi-heure, avec Philippe Villa, dans la boîte de jazz.
Dans la boîte de jazz, avec Philippe qui m'attend dans la pièce à côté, où je vais aller boire un verre et fumer une cigarette avec lui.
Voilà. Dehors la cigarette, dehors, hein, n'est-ce pas ? Bon, eh bien donc, on va reprendre ce livre d'Eric Miles Williamson, Bienvenue à Auckland. Début de l'extrait. Pop a pris son cuivre, la vieille trompette de la famille qui avait appartenu à son père et qui, un jour, quand je pourrais à nouveau jouer et que Pop me jugerait digne du cuivre de ses ancêtres, m'appartiendrait. Il a pris son cuivre et l'a posé sur ses lèvres craquelées par 10 siècles d'air propulsé par les radiateurs du garage, ridé par des vallées d'huile et de graisse qui ne s'effaceraient jamais. Il l'a soulevé, il a pressé ses lèvres sur l'embouchure et soufflé sa force et ses angoisses, son amour, son désir et sa volonté de faire face. Cette force qui faisait de lui ce qu'il était, ce qu'il avait été et ce qu'il serait à l'avenir. La force d'un homme qui ne s'enracine nulle part, mais au contraire, se dissémine dans le bitume du monde comme les vestiges d'une société si extraordinaire que personne ne devrait même en soupçonner l'existence. Une force immense mais refoulée, soumise par un million d'années passées à trimer pour des brutes, des types plus balèzes, plus malins et moins sensibles, donc plus puissants. La soumission de l'homme qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, qui doit lui procurer du pain, de l'eau, du feu et des peaux de bête. Mais ça, je connaissais par cœur et à la lettre, et je voulais demander à Pop s'il entendait toujours la musique du monde, bien qu'il ait renoncé à la trompette. S'il y avait de la musique dans les claquements du marteau-piqueur, dans le rugissement de la pelleteuse hydraulique et les gémissements des élévateurs, si des notes s'échappaient des boulets de démolition. Si, maintenant qu'il passait son temps à démonter des pneus de camion, à ressentir dans ses paumes les pneus et les vibrations du marteau-piqueur plutôt que celles de la trompette, ses viscères vibrant au rythme du compresseur plutôt que de la contrebasse, du piano, et ses doigts caressant les pistons de la trompette. Si, maintenant qu'il battait des trucs au niveau du sol, au lieu de monter là-haut avec les muses et les anges, il avait atteint un but sinistre et secret, un acte de vengeance contre lui-même, contre sa famille, son peuple et ses dieux mystérieux. Je voulais demander à Pop si la musique de son passé, la musique qu'il avait dans le sang, les voix des pères et des mères d'avant son époque hantaient ses rêves. Je voulais lui demander S'il était comme un vieux piano sur lequel personne n'a posé les doigts de toute une génération. La moelle à l'intérieur des touches noires et blanches, desséchées à force de n'être pas assez touchées. Les os blanchis de n'être pas suffisamment entrés en contact avec la peau. Bob jouait, et les vieux du groupe l'accompagnaient comme s'il avait été Miles Davis, Chet Baker, Clifford Brown, et vas-y que Pop se baladait entre les accords. Ces accords résonnaient comme l'écho de tout ce qu'il ne nous avait jamais dit, les gémissements et les supplications confiées, aux petites heures de la nuit, à des hommes et des femmes, dans des bars et des boîtes, qu'aucun d'entre nous, ouvriers, maçons, gars de chantier et ouvriers de la Gunite, porteurs de briques et chauffeurs de camions poubelles d'Auckland, ne connaîtraient jamais. Pop était tellement différent à ce moment-là. Pop vêtu de son costume. La trompette familiale sur ses lèvres et son air de musique qui passait du chatoiement au sifflement perçant. Il était tellement différent de nous. Pop, pour la première fois de sa vie. J'avais l'impression de tout savoir sur lui, toutes les nuances, toutes ses douleurs, toutes les femmes qu'il avait aimées. Et pourtant, c'était comme si je n'avais jamais rien su de lui. Jamais une phrase honnête et vraie. Je me suis dit alors que les mots... Les fleurs qu'à peine la vérité. Les seules vérités dans la vie, c'est l'amour, la stupeur et la musique. Alors, deux petits détails que j'ai oubliés en parlant du livre « Bienvenue à Auckland ».
Voilà, je voulais donc préciser que les très beaux mots anglais de, enfin américains de Eric Mal Williamson avaient été mis dans un très très beau français qui sonnait vraiment bien jazz et blues par Alexandre Tilges. Et tout ça et aux éditions Fayard.
Voilà, collection Fayard Noir. Frédéric Prieux, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, oui. À ce que j'ai compris, maintenant on prend les albums de bande dessinée à l'envers. On commence de l'autre côté.
Exactement, j'en fais tomber ma montre.
Ah c'est oui, ça elle... Ah bon, ça va. Non, parce que comme il y a des verres de l'autre côté, je croyais que aussi en Bretagne, c'était l'heure de l'apéro.
Oui, bientôt.
Bientôt, bon.
Donc, alors, en effet, Corinne et Jacques, je vous parle d'un manga, puisque on ne lit pas dans le sens à nous, c'est beau livre. Donc, le manga en question, c'est publié aux éditions Delcourt dans leur label Akata, et ça s'appelle L'affaire Sugaya. Alors, le sous-titre complet est, je prends mon souffle, la vérité sur les affaires d'enlèvement et de meurtre en série de fillettes du Kitakanto. Petite astérisque, d'accord, en bas de page après ce mot, Kitakanto, région japonaise, littéralement, nord du Kanto. Et pour compléter le générique, scénario Hiroshi Takano, dessin Kenichi Tachibana, et surtout, alors là encore je prends mon souffle, direction éditoriale, l'équipe d'enquête du programme Action du service des informations de Nippon Television.
D'accord. Interrogation écrite la semaine prochaine pour les auditeurs.
Exactement. On pourra pas dire que j'ai pas donné des indices les informations. Donc tout ça pour vous dire que ça explique un petit peu pourquoi sur la couverture, le dessin ce n'est pas le portrait de Sugaya, l'homme accusateur dont je vais vous parler dans quelques instants, mais c'est une caméra moderne accompagnée de deux cartes de presse. Alors, pourquoi ce dessin? C'est parce que ce manga raconte en fait une histoire qui s'est réellement passée au Japon en 2008-2009, et comment un journaliste d'investigation qui s'appelle Kiyoshi Shimizu, je vous pardonnerai l'accent, a repris une enquête qui était close depuis longtemps et a permis de la libération d'un homme emprisonné à tort depuis plus de 15 ans. Donc, alors, je vais reprendre les faits, chers amis, pour plus de clarté. Alors, je commence.
Alors, monsieur Dupont, non, pardon.
Donc, voilà. C'est plutôt Dupont-Caglia ou...
Voilà.
Alors, voilà. Alors, ce qui se passait, en 1991, un chauffeur de bus qui s'appelle... Alors, je vous donne encore un nom. Donc, c'est celui de l'affaire Sugaya, c'est Toshikazu Sugaya, est arrêté pour le meurtre d'une fillette. Il passe aux aveux, sa culpabilité est confirmée par une expertise ADN, et ensuite, il se rétracte. Mais ni l'appel en 2000, ni une révision de procès en 2002 n'aboutissent, et fin de son histoire à lui. En 2008, la chaîne MTV, donc Nippon Television, celle du générique de tout à l'heure, lance un nouveau concept d'émission d'info, le programme Action, qui consiste à mobiliser des équipes de journalistes sur un sujet que chaque équipe suit de manière continue pendant un an. Alors, l'objectif avoué de cette émission-là, c'était de prouver que le journaliste pouvait encore avoir un impact sur la société à un moment où il n'était plus vraiment considéré comme un contre-pouvoir au Japon. Mmh. C'est intéressant à faire chez nous aussi un petit peu ce genre
oui,
de choses.
Oui, débroussaillage.
Ah, petite parenthèse. Enfin, bon. Et parmi les journalistes se trouve donc Kiyoshi Shimizu, un type un peu étrange, pas forcément compris de ses confrères, qui déclare à son directeur vouloir, lui, pour cette émission, mener une enquête sur une série de 5 enlèvements et meurtres de fillettes perpétrés de 79 à 96. Et parmi ces 5, oui, vous êtes bien deviné, il y a celui de 1990 pour lequel le tueur Sugaya, celui dont je vous parlais, est déjà en prison. Donc, l'hypothèse de Shimizu, c'est la suivante. Les 5 meurtres sont ceux d'un même tueur et ce n'est pas celui qui est en ce moment sous les barreaux. Donc, le journaliste en question a le feu vert de sa chaîne et il se lance dans l'enquête et en fait, il commence par reprendre par le menu le déroulement de l'affaire Sugaya. Et dès la première émission, il fait sensation parce que qu'est-ce qui se passe? De fil en aiguille, du témoignage assez incohérent du présumé coupable jusqu'aux manquements, erreurs et omissions de la police dans ses investigations, Shimizu montre que son hypothèse n'est pas aussi insensée que certains le pensent. Et la suite de ses recherches va lui donner raison. Il va démonter tous les chevaux de l'enquête qui avait un peu foiré côté police. Donc, cela, chers amis auditeurs, je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure.
Oui. Est-ce qu'on a découvert le vrai coupable, finalement?
Pardon?
Est-ce qu'on a découvert le vrai coupable, finalement?
Eh bien non, c'est ça qui est assez étonnant, mais ça, je peux vous le dire, même sans que ça soit...
Oui, ça déflore pas l'histoire, quand même.
Sans dévoiler quoi que ce soit. Non, c'est étonnant, mais lisez ça, vous allez voir, c'est très surprenant. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un vrai suspense pour nous autres occidentaux qui ne connaissent rien de cette affaire, tu vois, comme vous voyez, chère Corinne, comme vous me posez la question. Oui. Moi, je ne connaissais pas, en tout cas. Et Et ce qui est assez réussi, vraiment, moi, je trouve aussi, c'est de tenir le lecteur en haleine sur deux fronts. Parce que celui de l'affaire des enlèvements, donc là, c'est plus, on va dire, policier, enquête, et l'autre, l'enquête de, journalistique en elle-même de Shimizu, c'est-à-dire, comment va-t-il s'y prendre pour remettre en cause tout ce que tout le monde a acquis depuis, tient pour acquis depuis longtemps, y compris la famille de la victime sur ce gars qui est en prison. Alors, tout le suspense est là. Alors, côté graphisme, parce que nous avons donc
un
manga, voilà, je rassure celles et ceux qui pourraient être restés sur une image manga égale personnage avec des grands yeux. Donc, je dis ça parce que on en trouve encore.
Ah non, mais moi je suis totalement comme ça, hein. Alors là, j'imagine ça.
Eh bien, écoutez, cher ami, pas ici. C'est ici un trait beaucoup plus réaliste, un petit peu dans la veine de celui, alors je vous cite un autre manga qui s'appelle Death Note, qui est un manga fantastique, polar fantastique, on va dire, dont le trait du dessinateur ressemble à celui de ce manga, l'affaire Sugaya. Alors, bien entendu, vous avez encore les caractéristiques du manga, comme cette manière que moi j'adore, qu'ils ont de souligner certaines émotions en faisant perler des petites gouttes de sueur sur les visages. Ça montre le personnage embarrassé, voilà. Ça, c'est typiquement manga. Ou alors d'accentuer certaines scènes par les traits de vitesse qui sont aussi propres au manga, les hachures, là, qu'on voit régulièrement. Mais au final, ce qui est assez étonnant, c'est que le dessin s'est apaisé et pas du tout en opposition avec la fébrilité, l'excitation de Shimizu et de son équipe. Parce que, dernier petit détail amusant, c'est qu'il y a un aspect mission impossible dans le début du manga, c'est-à-dire que Shimizu recrute un caméraman hors pair, une reporter freelance assez cocotte, je veux dire.
J'étais sûr.
N'est-ce pas, hein, Il en faut une. Un preneur de son assez taciturne, ce qui est assez drôle, il prend le son mais il parle pas, et un chauffeur amateur de choses compliquées, comme il le dit lui-même. Donc ça fait vraiment un petit peu mission impossible, et je finirai par vous dire que cette affaire Sugaya, c'est un one-shot, comme on dit vulgairement.
C'était la prochaine question, zut.
Voilà, j'anticipe, c'est ça la
communion
d'esprit.
Souvent les mangas, c'est quand même en 77 épisodes, donc là...
Et mon cher Jacques, j'allais dire, vous n'avez pas à craindre de vous embarquer dans une saga à non plus finir.
Voilà. Là,
c'est un seul volume, c'est chez Delcourt, donc je répète aux éditions.
Voilà, on a juste 30 secondes pour répéter, et puis je crois que vous vouliez nous parler d'autre chose, on en reparlera à la prochaine émission.
Exactement, c'était juste pour vous parler d'une série qui s'appelle Zodiac, mais donc cela aussi chez Delcourt, mais là donc c'est Delcourt, édition label Akata, scénario Hiroshi Takano et dessin de Tachibana, et ça s'appelle donc l'affaire Sugaya, l'histoire vraie d'un homme accusé à tort. Et c'est pas parce que c'est vrai que c'est pas intéressant, on va dire. Voilà, c'est très, très bien foutu.
Docu, drama, roman noir, manga.
J'ai résumé. Magnifique appellation. je vous dis à la semaine prochaine.
Ou la prochaine émission. Frédéric, merci beaucoup. Et puis, les noms compliqués, on va les retrouver écrits sur le site de l'émission, puis aussi sur votre blog. Donc, je pense qu'il y aura une chronique de cet album.
Oui, elle n'est pas encore là, mais sur Mediapolar, vous pourrez lire comme il faut tout ce que je viens de prononcer avec grande difficulté.
Voilà. Non, pas du tout. Eh bien, bye bye. À la prochaine émission. Lisez bien. Votez bien et tout quoi. Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Frédéric.